On dit qui vole un œuf, vole un bœuf. Mais ce n'est quand même pas pareil. Notre sens de la justice, tout comme le code pénal, fait une distinction entre les infractions à la loi et on ne peut pas mettre dans le même sac le gamin qui va piquer un œuf dans un poulailler et le paysan qui, au milieu de la nuit, va chercher le bovin dans le champ attenant de son voisin pour le vendre sur un marché éloigné. Ou encore un violeur assassin d'une petite fille et un voleur de poules. Les Saintes Écritures aussi font une distinction entre les fautes, déclarant certaines plus graves que d'autres. Je continue à lire dans le chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. « Celui qui désobéit à la loi de Moïse est mis à mort sans pitié si deux ou trois témoins déposent contre lui. À votre avis, si quelqu'un foule aux pieds le Fils de Dieu, s'il considère comme sans valeur le sang par lequel l'Alliance a été consacrée, s'il outrage le Saint-Esprit qui nous transmet la grâce divine, ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment plus sévère encore ?» Versets 28 et 29. Sous l'Ancienne Alliance, si un Israélite disait du mal de la loi de Moïse devant témoins, il était sommairement exécuté. L'auteur s'appuie sur cette règle pour dire que si le mépris de la loi de Moïse, qui est une alliance inférieure, entraînait un tel châtiment, qu'en sera-t-il de quelqu'un qui dédaignerait la nouvelle alliance, qui est parfaite et qui repose sur le sacrifice expiatoire du Christ? La seule réponse possible est que la condamnation prononcée dans le deuxième cas sera considérablement plus sévère que dans le premier, qui pourtant a déjà conduit à la peine capitale. Le pire crime que quelqu'un pouvait perpétrer sous le régime de l'Ancien Testament n'est pas comparable à l'offense commise par celui qui comprend la signification de la croix et crache dessus en rejetant délibérément la grâce de Dieu. Jésus a enseigné que le jugement, tout comme la culpabilité, est proportionnel au péché. Il a dit au gouverneur Pilate, « Celui qui me livre entre tes mains est plus coupable que toi. » La trahison de Judas était beaucoup plus grave que la décision politique de Pilate le poltron d'acquiescer à la requête des religieux juifs et de faire exécuter le Christ. Judas était un apostat parce qu'il savait que Jésus était le Fils de Dieu, alors que le gouverneur ne le connaissait pas. Pour cette raison, dans la Divine Comédie, le poète italien Dante place Judas tout au fond, dans l'endroit le plus reculé de l'enfer, et il pensait le plus chaud, en compagnie de Brutus, un des assassins de Jules César, parce que tous deux étaient des traîtres qui se sont d'ailleurs suicidés. Aujourd'hui, Dieu est moins tolérant qu'il ne l'était sous le régime de l'Ancienne Alliance parce que Jésus, la lumière du monde, est venu et les hommes sont donc sans excuses. L'apôtre Paul déclare « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Je continue le texte de l'Épître aux Hébreux. « Nous connaissons bien celui qui a déclaré « C'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. » Verset 30. Ce passage est tiré du Cantique de Moïse et s'adresse aux ennemis de l'Éternel, qu'ils fassent partie de son peuple ou qu'ils soient de l'extérieur. Dieu est le maître de cet univers et à ce titre, il exerce des jugements contre ceux qui le haïssent et discipline ceux qui lui appartiennent. Chacun d'entre nous devra lui rendre des comptes et comme je l'ai déjà dit, nul ne peut échapper à ce rendez-vous fatidique. L'apôtre Pierre écrit « Maintenant a lieu la première étape du jugement. Il commence par le peuple de Dieu et s'il débute par nous, quel sera le sort final de ceux qui refusent de croire à l'évangile de Dieu? Si les croyants vont avoir des sueurs froides, qu'en sera-t-il des apostats? » Esdras fut l'un des trois principaux acteurs du retour des Israélites de la captivité babylonienne. On lit qu'il arriva à Jérusalem parce que la bonne main de son Dieu était sur lui. S'il est vrai que Dieu veut poser sa bonne main sur chacun d'entre nous, Quelquefois, elle se fait plutôt pesante parce que je refuse de reconnaître mes mauvaises actions. Ce fut aussi l'expérience du roi David, et il la partage avec nous quand il écrit « Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'apesantissait, ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts, j'ai dit « Je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. » Je continue l'épître. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Verset 31. L'auteur met sévèrement en garde ceux qui songent à retourner aux pratiques du sacerdoce lévitique, qu'ils soient véritablement croyants ou pas. D'ailleurs, leur décision déterminera ceux qui appartiennent vraiment à Dieu et les autres. Dans un psaume, il est dit « L'Éternel tient dans sa main une coupe pleine d'un vin âpre et mélangé. Il en verse aux méchants de la terre qui devront vider la coupe en buvant jusqu'à la lie. » Cette coupe est réservée à toute personne qui foule aux pieds le Fils de Dieu, qui considère comme sans valeur le sang par lequel l'Alliance a été consacrée et qui outrage le Saint-Esprit. Ceux qui méprisent l'œuvre rédemptrice de Jésus sur la croix subiront le terrible jugement de Dieu. Je continue le texte. Rappelez-vous au contraire les premiers temps où, après avoir reçu la lumière de Dieu, vous avez enduré les souffrances d'un rude combat, car tantôt vous avez été exposé publiquement aux injures et aux mauvais traitements, tantôt vous vous êtes rendu solidaire de ceux qui étaient traités de la même manière, oui, vous avez pris part à la souffrance des prisonniers, et vous avez accepté avec joie d'être dépouillé de vos biens, car vous vous saviez en possession de richesses plus précieuses et qui durent toujours. Versets 32 à 34. Cette exhortation s'adresse à des Hébreux qui étaient devenus chrétiens et qui firent partie de la charrette quand l'empereur Claudius a expulsé tous les Juifs de Rome. Dans la foulée, ils avaient évidemment tout perdu. Maintenant, ils sont encore persécutés, mais par leurs congénères. Alors ils commencent à trouver que la chaleur et la pression montent un peu trop dans la cocotte minute chrétienne. De ce fait, ils se demandent s'ils n'ont pas fait une erreur de jugement, un mauvais choix concernant le Christ, et s'ils ne devraient pas retourner au temple et se joindre à nouveau à ceux qui suivent toujours le sacerdoce lévitique. Pour les encourager, l'auteur leur rappelle le chemin qu'ils ont déjà parcouru, le courage qu'ils ont manifesté dans les tribulations passées et les récompenses qu'ils recevront quand ils auront surmonté toutes leurs épreuves. Le mot pour « rappelez-vous » signifie « repenser attentivement, repasser en soi-même les événements du passé ». L'auteur dit quelque chose du genre « après avoir déjà tant souffert pour le nom de Jésus, ce serait une tragédie si vous abandonniez maintenant. Alors, allez de l'avant et ne vous comportez pas comme le sol rocailleux de la parabole du semeur. Les grains ont rapidement levé, mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. » Fin de citation. Ces Hébreux prouveront qu'ils sont de véritables croyants en se pliant aux exhortations de l'auteur. Les Hébreux du 1er siècle étaient écartelés entre leur culture ancestrale et l'attraction qu'exerçait sur eux Jésus. Beaucoup d'entre eux étaient convaincus qu'il était bien le Messie, mais éprouvaient de grandes difficultés à lâcher cette fausse espérance que les rites et symboles du système sacerdotal lévitique exerçait sur eux. Pour cette raison, l'auteur les pousse avec douceur mais fermeté à tenir ferme. Je continue le texte. N'abandonnez donc pas votre assurance, une grande récompense lui appartient, car il vous faut de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Versets 35 et 36. L'auteur enfonce le clou. Il poursuit son discours exhortant ses Hébreux à obéir pleinement à la volonté de Dieu, c'est-à-dire à ne pas songer un instant à retourner dans le judaïsme et à s'engager franchement et publiquement pour Jésus-Christ. Ce faisant, ils recevront les récompenses éternelles que Dieu a promises à ceux qui lui sont fidèles. Je continue. Encore un peu de temps, un tout petit peu de temps, et celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi, mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Versets 37 et 38. L'auteur s'inspire, mais sans les citer mot à mot, de deux passages prophétiques de l'Ancien Testament. On y retrouve l'espérance chrétienne du retour du Christ et la déclaration tonitruante « Le juste vivra par la foi » que l'apôtre Paul cite également à deux reprises. Mais dans chaque épître, l'accent est placé sur un mot différent. Aux Romains, Paul souligne « le juste » aux Galates, « la foi ». Et ici, c'est le verbe « vivre » qui est souligné. Les Hébreux hésitaient à s'engager pour Jésus à cause des persécutions qu'ils devaient endurer et qui s'intensifiaient jusqu'à menacer leur vie. Mais, dit l'auteur, si vous voulez vraiment vivre en juste, vous devez faire le pas final de la foi qui vous manque. Je finis le chapitre 10. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi afin de préserver leur âme. Verset 39. Ce « nous » englobe l'auteur et les Hébreux qui étaient vraiment croyants et qui donc avaient abandonné le temple, ses rites et ses sacrifices interminables. Pour les Hébreux, l'âme désignait la personne ou sa vie. Le mot pour se perdre se réfère à une perdition qui peut être temporelle ou éternelle. Un des thèmes de cette épître qui revient souvent est la nécessité d'aller de l'avant dans sa marche avec le Seigneur. D'ailleurs, une caractéristique des êtres vivants est de se développer, de progresser, sans quoi ils meurent. Le croyant est toujours exposé au danger de s'enliser à cause du découragement, de persécution ou d'autres difficultés de la vie. Mais de savoir qu'il possède un sauveur vivant qui intercède pour lui devrait l'aider à persévérer sur la voie étroite jusqu'à ce qu'il atteigne son port d'attache dans les cieux. Nous arrivons au chapitre 11 qu'on a appelé le Panthéon des saints, les héros de la foi ou encore la liste d'honneur des saints de l'Ancien Testament. Cette portion des Écritures remonte dans le temps pour faire la démonstration que la foi est le seul moyen pour l'homme d'entrer en contact avec Dieu. Les Juifs considéraient leur relation avec l'Éternel en termes de rites et de bonnes œuvres. Même certains de ceux qui, au premier siècle, avaient accepté Jésus comme sauveur, croyaient qu'il fallait aussi respecter certains principes de la loi de Moïse. Au temps de Jésus, le judaïsme se résumait à un manuel d'exigences légalistes. C'était un système éthique conçu par les chefs religieux juifs pour leur glorification personnelle, où le salut s'obtenait par sa religiosité. La foi en l'Éternel avait totalement disparu alors qu'elle a toujours été la base de toute relation avec lui. Curieusement, après avoir réduit le judaïsme à un règlement à respecter, on a fait de même avec le christianisme. L'un et l'autre ont ainsi été ramenés à un code de bonne conduite. Les êtres humains aiment bien qu'on leur donne une feuille de route. Comme je n'ai toujours pas un de ces gadgets modernes pour me guider par satellite quand je roule en voiture, il m'arrive encore assez souvent de me perdre. Mais j'ai une langue pour demander ma route. Alors on m'explique qu'il faut tourner d'un côté puis d'un autre et ainsi de suite. C'est facile à suivre et quand on me donne des informations exactes, j'arrive toujours à destination. La plupart des gens aiment bien avoir devant les yeux une liste de ce qu'on attend d'eux parce que ça les sécurise. Pour cette raison, bon nombre ont élu de suivre les 10 commandements ou les prescriptions du sermon sur la montagne. Au premier abord, il semble plutôt facile de se réfugier sous une liste de règles. Précédemment, l'auteur a prouvé la supériorité absolue de la Nouvelle Alliance sur l'Ancienne. Maintenant, il va montrer que non seulement ces deux alliances sont similaires sous le rapport de la foi, mais que toute relation avec Dieu s'établit sur ce même principe. L'auteur va donc montrer que, depuis toujours, l'Éternel a honoré la foi, depuis celle d'Abel Et il a rejeté les accomplissements humains, à commencer par ceux de Cain. Aucun système humain ne donne accès à Dieu sans la foi. Dans le chapitre précédent, l'auteur a dit « Le juste vivra par la foi ». Cette parole d'un prophète est reprise 3 fois dans le Nouveau Testament. Tous les personnages cités dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux sont les témoins vivants de la foi qui seul permet aux promesses de Dieu de se réaliser et procure la vie éternelle. Je commence à lire ce chapitre. La foi, c'est posséder ce qu'on espère. C'est l'évidence vécue des réalités qu'on ne voit pas. Verset 1. L'auteur définit la foi en utilisant 2 propositions parallèles et très similaires, une forme de poésie fréquente dans l'Ancien Testament. Sous l'Ancienne Alliance, les Israélites fidèles prenaient Dieu au mot et se cramponnaient à ses promesses. La foi est une espérance qui est tellement réelle que celui qui croit considère qu'il possède déjà ce qui en réalité n'existe pas encore, mais il est persuadé qu'il l'obtiendra. Le mot grec traduit par « façon de posséder » signifie « réalité » par opposition à une simple apparence. C'est aussi un terme scientifique qui exprime quelque chose de concret, l'inverse d'une théorie. C'est le composé solide qui s'est formé au cours d'une réaction chimique et qui est tombé au fond de l'éprouvette. La foi est une certitude, une conviction et donc une fondation solide et sûre et en dur sur laquelle on peut s'appuyer en toute tranquillité en attendant l'accomplissement de la promesse divine. Considérée ainsi, la vraie foi ne correspond pas au fameux pari de Pascal qu'on étudie au lycée et qui est plutôt d'ordre spéculatif. La foi n'est pas non plus un mystère, une sorte de sixième sens, une intuition, une formule du genre « Sésame, ouvre-toi » qui permet d'entrer dans le monde spirituel. Ceux qui ont la foi n'ont pas été initiés dans un ordre secret et ne pratiquent pas des rites mystiques. La foi n'est pas de l'ordre du fétiche, de la patte de lapin ou de l'amulette qu'on pend autour du cou pour se préserver du malheur. La foi n'est pas une substance qu'on ajoute à un code de bonne conduite comme la vinaigrette à une salade de bonnes œuvres. Sous la Nouvelle Alliance, l'espérance chrétienne est de croire Dieu et en sa parole, envers et contre tout. En fait, le croyant fidèle cherche à plaire à un Dieu dont il ne connaît pas la voie et place sa confiance en Jésus qu'il n'a jamais vu. Mais ce que les rationalistes considèrent comme une folie est pour lui une réalité aussi palpable qu'un titre de propriété qu'on tient entre ses mains. Jésus a dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». L'attitude naturelle de l'être humain est de croire ce que ses 5 sens lui dictent, ce qu'il voit, entend, goûte, touche et ce qu'il sent. Et pourtant, ils peuvent le tromper. Mais l'homme qui a foi en Dieu voit l'invisible que ses sens ne détectent pas. Plus loin dans le chapitre, l'auteur va parler de Moïse qui a renoncé au trône de l'Égypte par dévotion pour un Messie qui ne viendrait que 15 siècles plus tard. Daniel et ses 3 amis déportés à Babylone ont eu à choisir entre obéir à Nabuchodonosor qui était là devant leurs yeux et à l'Éternel dont ils avaient seulement entendu parler. Au péril de leur vie, ils ont résolument décidé d'obéir à Dieu. Contrairement à ce qu'on pense, le philosophe Épicure n'était pas un hédoniste, il n'enseignait pas la gratification immédiate, mais que l'homme devrait poursuivre ce qui à long terme lui procurera le plus de satisfaction. Eh bien la foi est de cet ordre-là, puisque celui qui fait confiance à Jésus reçoit la vie éternelle, ce qui se traduira par une félicité ultime et permanente dans les siècles des siècles. Plus loin, l'auteur écrit que les fidèles de l'Ancien Testament sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis, mais ils l'ont vu et salué de loin. C'est avec les yeux de la foi qu'ils ont vu la réalisation des promesses que Dieu leur avait faites. la primauté de la foi est descendue jusque dans le langage populaire, puisqu'on entend quelquefois dire qu'il n'y a que la foi qui sauve. Mais combien parmi ceux qui s'expriment ainsi comprennent la portée de leurs paroles?